Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Comme toutes les semaines sur Divergence FM, nous recevons Françoise Verna pour nous parler des grands titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, qui paraît en kiosque ce vendredi. Bonjour Françoise Verna.
Bonjour, bonjour Adeline.
Alors pour commencer, quels sont les titres à la une de la Marseillaise cette semaine ?
Oui. Donc à la une de la Marseillaise Hebdo d'Occitanie, donc qui est à paraître ce vendredi 24 juin. Alors nous analysons bien sûr dans notre dossier de la semaine la nouvelle situation politique, on peut parler de crise politique après les résultats des élections législatives, et on fait évidemment une analyse poussée des résultats dans le département de l'Hérault. Ensuite, nous mettons aussi à la une la pénurie de sang sur la région Occitanie, puisque les stocks de réserves régionales sont très inquiétants et sont au plus bas. Donc c'est important de relayer cette information et d'expliquer aux habitants qu'ils peuvent très facilement faire don de leur sang. Toujours dans le domaine de la santé, la région Occitanie lance à partir du 1er juillet son service public de la santé. Alors on peut être étonné que la région se lance dans un domaine qui n'est pas de sa compétence, mais c'est pour lutter contre les déserts médicaux et donc nous expliquons les raisons et les dispositifs. Nous faisons aussi coticulture, une étape, on va dire, pleine de frissons à Frontignan, puisque c'est le grand retour du Festival international du roman noir. Cette année, une place particulière est réservée aux romancières, puisqu'elles sont 25 venues d'un peu partout dans le monde sur les 29 auteurs invités ce week-end à Frontignan. Les femmes aussi sont aussi le grand sujet d'un autre reportage de notre part. C'est la grande rétrospective en hommage à un photographe, Peter Lindbergh. Et donc ça se passe au pavillon populaire à Montpellier. Et pour finir, nous proposons bien sûr une note sportive incontournable, car nous avons une affiche, c'est celle de la finale du top 14, c'est du rugby, avec on peut dire un derby occitan, puisque Montpellier rencontre le Castres Olympique ce vendredi soir au Stade de France. Ça sera une finale enflammée.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr. On commence avec votre dossier spécial concernant les élections législatives.
Oui, donc les élections législatives, nous revenons évidemment, c'est notre grand dossier de la semaine, puisque à l'issue du second tour, on a un paysage politique extrêmement fracturé. La grande leçon de ces résultats, c'est que le président Emmanuel Macron, qui a été élu il y a 2 mois, n'a pas de majorité. Il a une majorité très relative, puisque pour avoir la majorité absolue qui lui permettrait de mettre en œuvre sa politique, il manque une quarantaine de députés. Alors, c'est une élection qui montre aussi donc la fracturation de la politique et du paysage politique en 3 grands blocs. Alors, un bloc qui est celui du camp présidentiel, hein, qui avec une coalition, un bloc de gauche, puisque la nouvelle Union populaire écologique et sociale a réussi une entrée en force à l'Assemblée nationale, mais la surprise du scrutin, et on peut dire la mauvaise surprise du scrutin, c'est le niveau de l'extrême droite qui n'avait pas du tout été anticipé, avec 89 députés et de nombreux députés qui ont été élus dans la région Occitanie, évidemment, et dans l'Hérault, où sur les 9 circonscriptions qui étaient renouvelables, eh bien, on a l'exemple vraiment de cette tripartition avec 3 députés de la gauche unie, 3 députés pour le camp macroniste et 3 députés du Rassemblement national. Donc le camp présidentiel perd 4 députés. La gauche en gagne deux autres. On aurait pu, évidemment, de ce côté-ci de l'échiquier politique, espérer faire mieux, mais il y a eu aussi un événement important, c'est-à-dire que ce qu'on appelait le Front républicain a volé en éclats, et y compris parmi les élus. Nous avons deux élus de la gauche qui ont été élus de face d'une très courte tête, mais parce qu'il n'y a pas eu de report de voix assez conséquent. Les autres ont perdu aussi parce que ce Front républicain n'a pas fonctionné. C'est aussi inquiétant. L'autre analyse aussi, c'est bien évidemment le niveau de l'abstention. Une abstention record, elle était de 52,5% au premier tour. Elle est à 54% pour le deuxième tour. En fait, il y a des personnes, évidemment, qui ne sont pas allées voter en nombre. Et c'est aussi le signe d'une grande crise politique et démocratique. Donc, il y a du pain sur la planche, notamment pour les progressistes qui pensaient faire mieux dans l'Hérault et qui se retrouvent, on va dire, avec 3 élus sur 9. Et donc c'est aussi un des enseignements de ce second tour. Nous interrogeons le politologue Michel Crespi, qui revient évidemment sur l'enracinement de l'extrême droite dans notre région et puis en France, puisqu'avec 89 députés, c'est quand même un fait très notable. Sur l'avenir de l'Assemblée nationale, Michel Crespi, lui, nous explique qu'il ne voit pas cette Assemblée nationale tenir pendant 5 ans. Donc, il pourra y avoir ce qu'on appelle un renouvellement de l'Assemblée, mais sachant que le seul qui puisse dissoudre l'Assemblée, c'est le président de la République. Voilà l'essentiel de notre dossier politique.
Très bien, alors maintenant on continue avec la pénurie de collecte de sang en Occitanie.
Oui, en fait c'est l'établissement français du sang, donc qui est donc décliné dans toutes les régions, qui tire une fois de plus la sonnette d'alarme, puisqu'il y a un manque criant de collecte de sang. Alors il y a eu une journée mondiale du don du sang le 14 juin. Bon, il y a eu de nombreux habitants de la région qui ont répondu présent, mais on est toujours dans une situation critique. Bon, par exemple, les chiffres sont assez parlants. On a actuellement 6423 poches de sang disponibles en Occitanie. Or, ça fait à peu près une dizaine de jours, un peu moins de 11 jours de stock. Et l'objectif pour 2022, c'est qu'il faudrait prélever plus de 67 000 dons dans le bassin du Languedoc, dans le Gard et dans l'Hérault, pour couvrir les besoins en produits sanguins. Sachant que bon, les dons, il faut savoir à quoi ça sert. Ils permettent directement de soigner des personnes par la transfusion sanguine, mais aussi indirectement avec des médicaments qui sont dérivés du sang, issus notamment du don de plasma. Donc en fait, il faut savoir que pour un don de sang, il peut y avoir 3 utilités. Donc c'est très important. Alors, l'établissement français du sang que nous avons évidemment interrogé, c'est Lucie Dumoulin, qui est donc chargée de la promotion du don dans le bassin Languedoc. Donc elle explique qu'en fait, pour pouvoir donner son sang, il suffit d'aller prendre un rendez-vous dans une maison du don. Il faut être âgé entre 18 et 70 ans. Il faut peser au moins 50 kilos, être en bonne santé. Donc il y a un questionnaire très très facile et qui se passe très bien sur les antécédents médicaux, les différents facteurs de risque. Mais ça se passe en général très bien. Le don en lui-même et le prélèvement durent uniquement entre 6 et 8 minutes. Et donc c'est un geste très utile. Et qui sert, et là nous sommes vraiment dans une période extrêmement tendue, et c'est pour ça que nous avons voulu mettre l'accent sur cette pénurie pour aussi inciter les habitants à faire ce geste. Voilà.
Très bien, alors on passe ensuite sur le lancement du service public de santé régional lancé par la région pour lutter contre les déserts médicaux.
Oui, donc en fait, ce dispositif s'appelle Ma Santé, Ma Région. Et donc, c'est le Conseil Régional d'Occitanie qui a lancé ces centres de santé. Nous l'évoquons parce que le premier médecin qui va s'installer, il arrive le 1er juillet en Ariège, sur la commune de Sainte-Croix-Volvestre. D'ici un mois, il y en aura peut-être un second. L'objectif, c'est ce que nous explique Vincent Boune, qui est le vice-président de la région déléguée à la santé, c'est de recruter à la fin du mandat régional 200 professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes ou des maïeuticiens, on dit comme ça pour les hommes, entre guillemets, sages-femmes. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, 25 médecins soient recrutés. Le but, c'est de lutter contre les déserts médicaux et c'est un pourcentage assez impressionnant puisque 80% de l'Occitanie est en tension, c'est-à-dire que l'accès aux soins, faute de professionnels de la santé, est compliqué et difficile. Donc évidemment, la première étape, ce sont les zones rurales, mais tous les départements de la région Occitanie vont être concernés par cet effort, financier de la région, puisque la région va investir, rénover les locaux. Elle va participer aussi au paiement des professionnels, donc elle va pallier aussi aux politiques nationales et de l'État. Mais c'est un choix qui est assumé et nous en expliquons les raisons dans notre prochain hebdo de vendredi.
Très bien. Alors ensuite, on va parler culture avec le Festival du Roman Noir de Frontignan.
Oui, donc c'est un très grand événement, le Festival international du Roman Noir, qui va retrouver enfin pleinement son public ce week-end, du 24 au 26 juin. Il souffle ses 25 bougies. Et ce qui est très intéressant cette année, c'est que on aura une bonne dose de frissons. Il fait bien chaud et ça fera du bien. Il faut savoir que le roman noir et le polar est extrêmement populaire. Et parmi les lectrices, parmi les lecteurs, il y a énormément de lectrices. Et cette année, les organisateurs ont invité 25 romancières qui viennent de toute la planète du polar pour rencontrer le public. C'est vraiment un rendez-vous de rencontre. On peut évidemment aller découvrir les nouveaux auteurs et puis se mettre un peu à la page de ce qui se fait de mieux dans ce genre littéraire, qui est un genre littéraire qui parle vraiment profondément de la société et de ses dysfonctionnements et de son fonctionnement. Il n'y a rien de mieux qu'un polar pour comprendre les grands enjeux aussi de notre époque. Il y a des autrices qui seront là. Notamment, il y en a certaines qui viennent du Canada ou du Québec. C'est des Québécoises, Isabelle Grégoire, Maureen Martineau. Il y aura la possibilité aussi de participer à des activités autour de la lecture. Il y a des expositions, des performances d'écriture collective avec l'édition sur place du livre, des ateliers pour les plus jeunes. Il y a aussi ce qu'on appelle des lectures électriques, entre guillemets. Alors, le public est invité le temps d'une balade d'une heure en bateau électrique, donc sur le canal du Rhône à Sète, les lecteurs bénévoles et même des auteurs lisent des textes en lecture croisée. Ça s'appelle ping-pong bang-bang. Et donc, c'est une façon de rapprocher lecteurs et auteurs de façon, ludique et intéressante d'un point de vue de l'échange.
Toujours dans la culture, on passe à présent à l'exposition de Peter Lindbergh au pavillon de Montpellier.
Oui, c'est vraiment une exposition événement qui est une rétrospective en hommage à ce grand photographe qui nous a quittés en 2019, alors que c'est un photographe de mode. La mode, c'est un peu aussi comme le polar, elle raconte une époque, elle raconte des époques. Et la grande carrière de Lindbergh permet de visiter et de revisiter des époques différentes. C'était aussi, comme nous l'explique Tara Londi, qui est la commissaire de l'exposition, un photographe qui, pour elle, a élevé la photographie de mode au rang d'art. C'est-à-dire que il a énormément photographié les femmes, mais son objectif, c'était de libérer les femmes d'une conception oppressive, irréaliste de la beauté, en proposant des images qui soient plus centrées sur l'être plutôt que sur l'avoir ou le paraître. Donc ça peut sembler paradoxal pour un photographe de mode, mais c'était plus qu'un photographe de mode, c'était un véritable artiste. Il y a aussi une sélection d'interviews, c'est un photographe allemand, donc ces interviews permettent d'être au cœur de ses propres mots, et de toucher du doigt vraiment l'apport révolutionnaire de cet artiste dans la vision de la mode. Il a vraiment marqué son époque et donc c'est une exposition va mettre aussi en avant le travail en noir et blanc. Il disait que pour lui, il ne s'agit pas de dire c'est beau ou c'est pas beau, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc on invite vraiment nos lecteurs et les auditeurs à aller découvrir cette rétrospective. Pour ceux qui connaissent ce photographe, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sera une vraie découverte. Et elle est visible jusqu'au 25 septembre au Pavillon Populaire à Montpellier. Et donc on a tout l'été pour aller découvrir le travail de Peter Lindbergh, avec évidemment des photos originales. Ils ne sont pas des reproductions, et donc ça aussi, l'œuvre directe, c'est toujours plus intéressant.
Tout à fait. Et pour finir, alors parlons rugby avec la finale du Top 14 entre Castres et Montpellier qui se déroulera eh bien ce vendredi.
Oui, donc on fait un clin d'œil évidemment à nos amis, aux amateurs de rugby, puisqu'on a quasiment un derby occitan, hein, Castres-Montpellier, Montpellier-Castres. Ils jouent donc vendredi soir pour gagner ce qu'on appelle, ce que les rugbymen appellent le bout de bois, c'est le bouclier de Brennus. Donc c'est vraiment pour tous les rugbymen, c'est du rugby à 15 professionnels, c'est le Graal, hein, être champion de France, c'est soulever le bouclier. Alors qui de Castres, qui de Montpellier va l'emporter? Ce sont deux équipes très solides, qui ont eu des défenses et qui ont un jeu très rugueux, donc ça va être très très engagé. Ce sera ça, on espère, en tout cas pour le spectacle, que ce sera très engagé. C'est une véritable fête de rugby. C'est visible évidemment sur le service public audiovisuel, et ça c'est très bien, parce qu'il y a de plus en plus de l'accès au sport à la télévision est de plus en plus payant, mais la finale reste quand même préservée. Et donc, même si on n'est pas connaisseur, c'est toujours un grand moment. Et pour Montpellier, c'est un événement. Castres aussi. Castres a été champion 5 fois. Est-ce qu'ils le seront une 6e fois? Est-ce que Montpellier va l'être pour la première fois? Voilà, c'est passionnant, et c'est vendredi. Et c'est dans la Marseillaise aussi.
Et oui, eh bien, merci beaucoup Françoise Vernat. Je vous rappelle que tous ces titres sont à retrouver en kiosque dans l'hebdomadaire d'Occitanie, La Marseillaise. En attendant de se retrouver eh bien la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt Françoise.
À bientôt, merci beaucoup.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.